Rebonjour à chacun. Alors, on est un petit nombre ce matin, peut-être avec la neige, avec le froid, mais merci d'avoir bravé la petite tempête pour être avec nous ce matin pour célébrer le Seigneur, la naissance de Jésus, puis pour qu'on écoute ensemble la parole de Dieu. Alors, c'est commun pour les adolescents de donner du trouble à leurs parents. Est-ce qu'il y en a ici qui ont donné du trouble à leurs parents quand ils étaient adolescents? Il y en a qui parlent dans le passé, il y en a qui parlent dans le présent. Alors, certains qui n'ont pas donné du tout de trouble à leurs parents. Oh, wow! Alors, on a quelques petits anges ici, félicitations. Mais c'est plutôt commun, comme adolescents, de donner du trouble à nos parents, et on dirait bien que nos parents nous donnent du trouble aussi lorsqu'on est adolescent. Et c'est pas faux. Ça va dans les deux sens. Mais aujourd'hui, on va entendre parler d'un fils qui s'est détourné de ses parents, qui s'est détourné de son père, qui a pas écouté son père, puis il a fugué pour aller vers toutes sortes d'autres choses. Et comment ce fils-là, c'était le peuple d'Israël, et comment Jésus est devenu lui, le fils fidèle, qui n'a pas été comme Israël, qui a donné du trouble à son père. Alors, ce matin, c'est notre troisième dimanche dans notre série, Noël annoncé par les prophètes. Aujourd'hui, Noël annoncé par Osée. La raison pour laquelle on dit ça, c'est parce que dans l'Évangile selon Matthieu, qui est le premier livre du Nouveau Testament, celui qui l'a écrit, Matthieu, qui raconte la vie de Jésus, dans ses deux premiers chapitres, il parle des événements entourant la naissance de Jésus, les événements entourant Noël. Et à cinq reprises, dans les courtes scènes que Matthieu nous présente, il les choisit, il nous a présenté chacune de ces scènes-là parce que on voit dans ces scènes-là que Jésus a été l'accomplissement de promesses ou de choses que Dieu avait annoncées par les prophètes. On a vu il y a 2 semaines que le prophète Ésaïe avait parlé du fait que la jeune femme, la Vierge, serait enceinte, qu'elle mettrait au monde un fils qu'on appellerait Emmanuel. Et que ce fils-là, bon, à court terme, ça a été le fils d'Ésaïe, mais ensuite, c'était, dans le contexte d'Ésaïe 7 à 12, c'était aussi le descendant de David, c'était le rameau qui renaîtrait sur le tronc coupé d'Ésaïe, du royaume de David, que ce roi-là, cet enfant-là s'appellerait Merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, alors que ça, c'était pas juste le fils d'Ésaïe, ça annonçait la naissance et la venue de Jésus, qui est venu être Dieu avec nous, il y a 2000 ans, et qui continue à l'être dans les cœurs de tous ceux qui l'ont reçu. La semaine passée, on a vu comment Matthieu montrait que le prophète Michée annonçait que le Messie allait naître à Bethléem. Et les scribes de Hérode en étaient conscients au début de Matthieu chapitre 2, et les mages qui étaient arrivés d'Orient. Cette histoire si typique de Noël qu'on retrouve dans Matthieu 2, les mages qui avaient vu l'étoile au loin, à des mois de voyage, et qui avaient voyagé pour se rendre, pour rencontrer, pour aller honorer, pour aller adorer le roi des Juifs qui venait de naître. Et que c'était à Bethléem qu'il devait naître. Et Dieu avait fait concorder les événements pour ramener Marie et Joseph à Bethléem, au moment où Marie devait accoucher, pour que Jésus, malgré qu'il allait grandir à Nazareth, serait né à Bethléem, selon la prophétie de Michée. Et aujourd'hui, on regarde notre troisième texte. Je vous invite à tourner avec moi dans l'Évangile selon Matthieu. On a un court passage aujourd'hui. On a un très court passage, juste 3 versets dans Matthieu. On va regarder dans l'Ancien Testament de quoi Matthieu parle ici. Et la semaine prochaine, on va couvrir 2 textes ou 2 prophéties faites par les prophètes dont Jésus était venu être l'accomplissement. Une de Jérémie et une prophétie un peu obscure que je vais laisser la joie de Vidéo d'essayer de décortiquer avec vous. Alors, je vais lire pour vous l'Évangile selon Matthieu, Chapitre 2, versets 13 à 15. Là, ce texte-ci arrive, les mages sont venus visiter Marie, Joseph, le petit enfant, ont déposé les cadeaux et ils ont été avertis dans un rêve de ne pas retourner voir le roi Hérode et ils ont regagné leur pays par un autre chemin. Verset 13. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Prions ensemble. Seigneur, merci de nous avoir donné ta parole. Merci de nous avoir donné celui qui est la parole de Dieu. De nous avoir donné Jésus, notre Sauveur. Merci pour la joie de pouvoir l'adorer, de pouvoir t'adorer aussi, Père. On veut te demander d'éclairer nos cœurs, d'éclairer notre pensée, d'éclairer notre volonté, nos émotions. Par rapport aux vérités de ta parole, imprègne-les en nous, Seigneur. Malgré qu'on va parler de théologie aujourd'hui, Seigneur, montre à chacun de nous de quelle façon tu veux changer nos cœurs à travers les vérités de ta parole. Dans le précieux nom de Jésus, on te prie. Amen. C'est assez fascinant que ceux qui ont organisé les livres du Nouveau Testament, les premiers chrétiens ont mis l'Évangile selon Matthieu au début du Nouveau Testament. Et c'est pas pour rien, parce que au début de l'Évangile selon Matthieu, ça commence « Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. » Et on voit sa généalogie, Jésus qui est descendant d'Abraham et descendant de David, et comment la vie de Jésus est en continuation directe avec tout ce que Dieu avait annoncé dans l'Ancien Testament, avec les promesses faites à Abraham, avec les promesses faites à David. Et Matthieu est, des quatre évangélistes, celui qui met le plus l'accent sur comment Jésus est l'accomplissement de ce que Dieu avait annoncé dans l'Ancien Testament, par la loi, par les prophètes, par les psaumes. Et tout le Nouveau Testament nous le démontre aussi. Mais c'est pas pour rien que Matthieu est mis en premier, parce que c'est celui qui démontre le plus la continuité entre la venue de Jésus et tout ce que Dieu avait annoncé dans l'Ancien Testament. Alors, dans notre court passage d'aujourd'hui, on voit un ange qui apparaît de nouveau à Joseph. La première fois, c'était lorsque Joseph pensait divorcé secrètement avec Marie, ayant appris qu'elle était enceinte, que Marie lui ait dit sa version des faits, qu'un ange lui était apparu, qu'elle n'avait pas connu d'homme, qu'elle était enceinte par le Saint-Esprit, ou que Joseph ne l'ait pas su, qu'il ait entendu Marie ou pas. Dieu a eu pitié de Joseph, ne lui a pas demandé d'être naïf, mais lui a montré dans un rêve, lui a envoyé un ange pour lui montrer Marie est enceinte par l'action du Saint-Esprit. Et celui qu'elle va mettre au monde va être mon fils, le Sauveur, Jésus, celui dont le nom veut dire l'Éternel sauve, Dieu sauve. Alors Joseph avait déjà eu dans un rêve un ange qui était venu lui parler et Joseph avait obéi. Il avait été prêt à prendre Marie, peut-être, peu importe l'opprobre que ça voudrait dire, à quel point est-ce que Marie est enceinte, à quel point est-ce que ça paraissait, tous les raconteurs que les gens pourraient dire à l'égard de Marie, à son égard. Et souvent, à l'époque, selon les lois de l'Ancien Testament, s'il y avait des gens qui couchaient ensemble avant d'être mariés, ben c'était la lapidation pour les deux. Et malheureusement, comme on le voit plus chez la femme que chez l'homme. Dans ce qui reste, si la femme tombe enceinte, il pouvait avoir une tendance à accuser la femme, mais pas accuser l'homme. Et Joseph a été prêt à prendre tout ce qui aurait pu se dire, mais de faire confiance au Seigneur, puis d'obéir au Seigneur. Et encore une fois, un ange lui apparaît et lui annonce que Hérode va vouloir faire tuer leur petit garçon. Et il leur dit, partez, lève-toi, prends ta femme, ton fils, en allez-vous en Égypte. Alors, je ne sais pas si Joseph avait de la famille en Égypte. On ne le sait pas. Ils sont restés quelques années en Égypte, mais ça n'a pas dû être facile à faire. De faire confiance au Seigneur, ils ont dû faire face à probablement beaucoup d'inconnus. La route, les dangers de la route, les dangers d'aller quelque part, de quelle façon est-ce qu'ils allaient vivre. Joseph était charpentier, bon, est-ce qu'il serait capable de vivre, de quelle façon ils allaient pouvoir être corrects, être en sécurité, trouver une maison, trouver un endroit où ils pourraient être en sécurité. Joseph et Marie ont dû faire confiance au Seigneur. Certains d'entre vous avez vécu ça, le fait de quitter votre pays, quitter votre confort, d'aller un peu à l'inconnu, dans un autre pays arrivé où peut-être vous ne connaissiez personne. Et ça a été un choc ou un pas de foi de décider de faire ça. Mais vous vouliez un meilleur futur pour vous, probablement pour vos enfants. Mais Joseph et Marie aussi ont fui ce qui n'était pas garanti. Joseph a fait confiance à Dieu qu'il y avait effectivement un danger. Probablement qu'il n'en était pas conscient, que ça ne s'était pas matérialisé, mais il y avait un réel danger, comme on va le voir la semaine prochaine, ou dans les versets qui suivent dans le texte. Alors Joseph s'est levé, hop, et là, ça dit qu'il a pris de nuit le petit enfant. L'ange n'avait pas dit à Joseph de se lever de nuit pour y aller, mais Joseph l'a fait de nuit. Est-ce que c'est juste que l'ange ne l'avait pas mentionné, ou est-ce que Joseph a voulu prendre toutes ses précautions pour ne pas se faire retracer? Mais ils sont partis de nuit, ils sont allés en Égypte. Et la raison pour laquelle Matthieu nous raconte ça, il dit que c'est afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, j'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Wow, ça c'est intéressant. Que même dans l'Ancien Testament, Dieu avait déjà prédit à propos de Jésus que son fils allait sortir d'Égypte. Wow. Mais on va aller ensemble, on va retourner voir dans Osée 11 de quoi il est question. Puis c'est pas si clair qu'il est question du Messie, du fils de Dieu, de Joseph. Non, au contraire, il est plutôt question d'Israël. Ici, ce fils-là, c'est Israël. Alors, est-ce que Matthieu, il fait juste piger un verset au hasard, sans considérer le contexte, puis dire, ah, juste ce verset-là, le fils, ah, ça, c'est comme Jésus. Ah, Jésus est sorti d'Égypte, ah, c'est bon, ça. Donc, ça, c'est la preuve que Dieu l'avait annoncé par les prophètes. Est-ce que c'est ce que Matthieu a fait? Certains croient que oui, qu'il n'y avait aucun égard pour le contexte qui a donné un sens au texte qui n'y était pas présent. Mais on va voir que Matthieu est allé plus profond que ça. Et ce que ça va nous révéler sur Jésus est en fait est fascinant et même transformateur pour nous. Pourquoi Jésus est appelé le Fils? C'est quoi le lien avec Israël? Alors, je vous invite à reculer de quelques pages dans votre Bible, retourner à l'arrière de 700 ans et aller dans le prophète Osée. Osée est un autre des petits prophètes. On va aller à Osée chapitre 11. Alors tout d'abord, un peu de contexte sur Osée. Osée était prophète à peu près dans le même temps qu'Ésaïe, dans le même temps que Michée. Mais lui, Osée, était prophète dans le nord d'Israël. Ésaïe et Michée, je crois pour Michée, eux, ils étaient prophètes dans le sud, dans la région de Juda, où était Jérusalem, la capitale, où étaient les rois descendants de David. Tandis que Osée, lui, était roi dans le nord, là où c'était commun pour les rois de se faire assassiner, puis qu'un autre s'arrange pour faire assassiner le roi, puis prendre sa place. Et c'est possible que pendant la vie d'Osée, il y a 5 rois qui sont passés, dont 4 qui se sont fait assassiner. Donc, ce n'est pas la grande stabilité politique pendant ces années-là. Les historiens estiment que probablement que ces assassinats nombreux-là sont dus au fait qu'il y avait les grandes puissances de l'époque, la Syrie et l'Égypte, qui essayaient de faire contrepoids, qui essayaient d'influencer les nations au milieu pour qu'ils soient de leur bord, pour qu'ils se rebellent contre le plus fort. Là, c'était la Syrie qui était le plus fort. Donc là, l'Égypte et la Syrie avaient tendance à exercer sa domination sur le royaume d'Israël. Et là, l'Égypte pouvait encourager ces nations-là à se rebeller contre la Syrie. Comme ça, la Syrie serait moins forte, puis là, l'Égypte pourrait reprendre le dessus. Et c'est possible que ces factions-là politiques aient été derrière ces assassinats-là, ces renversements de régime constants. Et contrairement au royaume de Juda, dans le sud d'Israël, où c'était la lignée des fils de David qui continuait, selon la promesse que Dieu avait faite à David, qu'il y aurait toujours un descendant de David sur le trône à Jérusalem, tant qu'il demeurait obéissant à Dieu. Et Dieu a été très patient avec eux parce qu'ils n'ont pas été très obéissants. Mais alors, c'était les rois de David dans le sud, mais au nord, dans le royaume d'Israël, les 10 tribus là-bas, ça changeait tout le temps. Donc, le premier, Jéroboam, lui, sa dynastie a duré quelques générations. Après ça, wow, il n'y en a plus eu de lui. Puis là, c'était remplacé par un autre, par Jéhu. Dieu avait dit, il va y avoir 4 générations sur le trône. Après ça, c'est fini. Puis là, pendant la vie d'Osée, ils ont eu successivement là, des assassinats, des coups d'État, on tue le roi, on se met comme roi à la place. Donc, comme prophète de l'Éternel, où tu es là pour dire des choses pas faciles, ta vie est pas mal en danger. Si tu vas voir le roi, si tu dis aux gens des choses qu'ils n'ont pas le goût d'entendre, dans un pays qui n'est pas stable politiquement, alors ta vie est en danger. Et Osée a été prêt à dire ce que l'Éternel l'appelait à dire. On n'a pas beaucoup de contexte historique dans la vie d'Osée, mais au début, on voit qu'il était là durant les règnes d'Ozias, de Jotham, d'Akaz et d'Ézéchias sur Juda, durant celui de Jéroboam, fils de Joas, sur Israël. Mais si on voit les rois de Juda, ça veut dire qu'il y a eu une succession d'autres rois en Israël aussi, tous ceux là qui se faisaient pas mal assassiner. Et Osée, le prophète Osée est très connu pour être celui à qui Dieu a demandé de marier une femme prostituée. Dans les 3 premiers chapitres d'Osée, c'est probablement ce qu'on connaît le mieux sur ce prophète-là. Dieu lui a demandé d'aller marier une femme, de prendre une femme prostituée, la prendre comme sa femme. Il a eu 3 enfants avec elle et c'est pas très clair c'est quoi la séquence chronologique. Même certains pensent que c'était un mime, que c'était pas réellement ça, que c'était pas littéral. Lecture naturelle du texte nous porte plutôt à croire que Osée a vraiment dû vivre ça, puis que sa femme ensuite l'a délaissé, qu'elle est retournée vers ses amants et qu'il est allé ensuite la racheter qu'elle était devenue esclave, on ne sait pas trop comment, mais il est allé payer pour la racheter, pour la reprendre à lui. Et pourquoi est-ce qu'Osée devait vivre tout ça? Ça allait être un symbole, ça allait être une image de l'amour pour Dieu envers Israël, un peuple qui se prostitue à toutes sortes d'autres dieux, un peuple qui est rebelle, un peuple qui n'aime pas Dieu en retour, mais que Dieu poursuit avec amour, que Dieu va juger, que Dieu va délaisser. Tu veux aller dans tes péchés, bien voilà où est-ce que ça va te mener. Mais qui va les ramener à la fin, qui va aller les chercher. Et la vie d'Osée a été une image extrêmement parlante de l'amour de Dieu envers son peuple. Comme un mari qui aime sa femme même si elle lui est infidèle. Quelle grâce que Dieu soit un Dieu comme ça envers nous. Les prochains chapitres d'Osée, les chapitres 4 à 11. Ensuite, c'est des... Osée fait des reproches au peuple d'Israël à cause d'une toutes sortes de raisons. Et la première, c'est à cause de leur idolâtrie. On voit le premier roi d'Israël, Jéroboam, lui a fait construire deux veaux d'or et a dit, voici Israël, tes dieux qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte, ont enfreint tout de suite le deuxième commandement de ne pas avoir d'image taillée, de ne pas se prosterner, ne pas adorer et de ne pas aller adorer à Jérusalem, de créer d'autres lieux. Alors, ils ont créé des veaux d'or, mais ils se sont livrés à toutes sortes d'autres dieux aussi, au Baal, les dieux cananéens des alentours. Osée 8:4b, Osée dit, ils ont fait des idoles avec leur argent et leur or, c'est pourquoi ils seront anéantis. Prochain verset, l'Éternel a rejeté ton veau, Samarie, ma colère s'est enflammée contre eux. Jusqu'à quand refuseront-ils de se purifier? Ce veau vient d'Israël, un ouvrier l'a fabriqué, et il n'est pas Dieu. C'est pourquoi le veau de Samarie sera mis en pièces. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Osée reproche aussi, Dieu reproche par Osée au peuple d'Israël sa débauche sexuelle, le fait qu'ils se sont établis des faux rois, le fait qu'ils sont menteurs, assassins, voleurs, violents, ivrognes, corrompus, que même leurs prêtres sont tout aussi corrompus, mènent Israël dans tous ces péchés-là. Un autre aspect que Dieu leur reproche, et ça peut-être que c'est tout ce que je viens de dire, ah, nous, on n'a pas ce problème-là, mais c'est le formalisme du peuple d'Israël. Ils adorent Dieu, ils adorent l'Éternel, ils manifestent les signes extérieurs de la religion judaïque, mais sans le cœur tourné vers Dieu. Ce serait un petit peu comme de venir à l'église le dimanche matin. Ils accomplissent leur devoir religieux à venir à l'église le dimanche sans que ça ne change quoi que ce soit dans leur vie pendant la semaine. On vient adorer Dieu le dimanche, puis ensuite, pendant la semaine, on adore l'argent, on adore la prospérité, on adore le plaisir, on adore le contrôle, on adore toutes sortes d'autres choses. Ah, on donne notre dîme, on loue le Seigneur. On écoute la Bible, puis ensuite, ça ne change rien. C'est purement une religion extérieure. C'est purement quelque chose de formel. Et un des reproches que Osée leur fait, Osée 6:6, dit, en effet, ça c'est l'Éternel qui dit ça, en effet, je prends plaisir à la bonté et non au sacrifice, à la connaissance de Dieu plus qu'aux holocaustes. Et c'est quelque chose que Jésus va ramener aux pharisiens, aux scribes, pour leur dire, vous obéissez à tous les petits points, mais vos cœurs sont loin de moi. Chers amis, un avertissement pour nous qui venons à l'église le dimanche, qui manifestons de l'extérieur une piété au minimum formelle. Mais est-ce que nos cœurs sont transformés par la parole de Dieu? Est-ce qu'on adore ensuite toutes sortes d'autres choses pendant la semaine? Où est-ce que Dieu est dans toute notre vie le plus précieux et le plus beau dans nos vies? Et ce n'est pas pour notre malheur que Dieu nous demande que lui soit le plus beau et le plus précieux dans notre vie. C'est parce que toutes ces autres choses-là, ces autres idoles, ces vains plaisirs que nos cœurs recherchent ne vont pas nous satisfaire. Ils ne nous satisferont jamais. Ensuite, la liste de péchés d'Israël, on achève là. Ils s'appuient sur des nations étrangères comme sauveurs. On va aller demander de l'aide à la Syrie. On va aller faire un traité avec l'Égypte. On va aller chercher de l'aide à droite et à gauche. On va s'appuyer sur des hommes. Mais on ne va pas chercher à obéir à Dieu et à s'appuyer sur lui. Ils ne démontrent pas de repentance. Ils sont orgueilleux. Et osez donc, un peu partout à travers son livre, il annonce un jugement violent et terrible qui va venir sur Israël parce qu'ils ne se sont pas repentis et parce qu'ils ne vont pas se repentir. Il annonce la destruction et l'exil. Et le peuple d'Israël, dans le nord, ne s'est pas repenti. Et un certain nombre d'années après Osée, on ne sait pas exactement à quelle année il a prophétisé ces choses-là, mais en 722 avant Jésus-Christ, Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, est finalement venu détruire la ville de Samarie, qui était la capitale du nord d'Israël, a déporté la grosse majorité de ses habitants. Et de ceux-là, il n'y a jamais vraiment de groupe clair qui est revenu habiter, qui est revenu adorer Dieu. Ils se sont un peu perdus. Ils ne voulaient pas se repentir et Dieu les a laissés aller où ils voulaient aller, dans la perdition. Cependant, à travers tout ça, Dieu va quand même avoir compassion et pardonner à son peuple. Alors, même si on n'a pas vu clairement des gens qui sont revenus d'Assyrie pour revenir, il faut croire qu'il y en a pour qui c'est arrivé. Parce que le Seigneur a promis un reste, qu'il y aurait un reste qui reviendrait, à qui Dieu y pardonnerait. Il annonçait un retour d'exil de façon subtile, mais quand même présente, pour une portion du peuple d'Israël. Alors, on va lire ensemble Osée 11. Qui est un chapitre qui couvre à peu près toutes ces idées-là, le péché d'Israël, le jugement à venir de Dieu et le fait que Dieu va avoir compassion et va les ramener. Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont offert des sacrifices au Baal et fait brûler de l'encens en l'honneur des idoles. C'est moi qui ai guidé les pas d'Éphraïm, qui les pris par les bras, mais ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les ai tirés avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. J'ai été pour eux pareil à celui qui soulève la pièce d'attelage pesant sur la bouche et je leur ai présenté de la nourriture. Ils ne retourneront pas en Égypte, mais l'Assyrien sera leur roi, parce qu'ils ont refusé de revenir à moi. L'épée fondra sur leur ville, exterminera, détruira leur soutien à cause des projets qu'ils ont eus. Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. On le rappelle vers le Très-Haut, mais aucun d'eux ne se lève. Comment te traiterai-je, Éphraïm? Faut-il que je te livre à l'ennemi, Israël? Dois-je te traiter comme Adma, te rendre semblable à Tseboïm? Ces deux villes-là sont des villes qui ont été détruites en même temps que Sodome et Gomorre. Alors Dieu dit, est-ce que je dois te traiter comme j'ai traité Sodome et Gomorre? Je suis tout bouleversé, je suis rempli de compassion. Je n'agirai pas en fonction de l'ardeur de ma colère. Je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. Ils suivront l'Éternel qui rugira comme un lion, car il rugira, et des enfants accourront de la mer. Ils accourront de l'Égypte, pareil à un oiseau, et de la Syrie, pareil à une colombe, et je les ferai habiter dans leur maison, déclare l'Éternel. Il y aurait toutes sortes de choses qu'on pourrait dire de ce chapitre-là, mais j'aimerais surtout qu'on se concentre sur le verset 1, qui est le verset que Matthieu cite en disant que Jésus a accompli ça. Alors, Dieu est en train de parler du peuple d'Israël. Il dit « Quand Israël était jeune, je l'aimais, j'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » À quoi est-ce que Dieu y fait référence ici? À quoi est-ce que Dieu fait référence? La sortie avec Moïse, l'Exode, avec les 10 plaies d'Égypte, que Dieu a envoyé Moïse pour arracher Israël des griffes de Pharaon, et ça a été dur. Dieu endurcissait même le cœur de Pharaon pour montrer sa puissance. Mais Dieu a sorti son fils Israël d'Égypte. Mais comme je mentionnais au début, Israël n'a pas été un fils fidèle. Israël est allé vers toutes sortes d'autres choses. Malgré que Dieu était un père aimant, qui l'ait guidé, qui l'a pris dans ses bras, ils n'ont pas vu que Dieu les guérissait. Dieu les tirait vers ses cattes avec des liens d'humanité, des cordages d'amour. Il lui donnait à manger à la bouche, que ce soit l'image d'un animal ou l'image d'un nourrisson à qui Dieu il donnait à manger. Israël s'est détourné de Dieu et s'est tourné vers des idoles. S'est tourné vers toutes sortes d'autres choses que Dieu pour trouver son identité, pour trouver sa prospérité, pour trouver sa sécurité, au lieu de les chercher en Dieu seul. Alors, de quelle façon est-ce que Jésus est celui qui accomplit ça? Jésus a été le nouvel Israël. Jésus a été le vrai Israël. Par sa vie, Jésus a réécrit l'histoire d'Israël pour que tous ceux qui se confient en lui ne portent plus l'héritage d'un Israël qui s'est détourné de Dieu, mais d'un Israël qui a vécu parfaitement comme Dieu l'avait appelé à vivre. Alors, la raison pour laquelle Matthieu dit que Jésus a accompli ça, c'est parce que Jésus était un nouvel Israël. Jésus a été comme Israël que Dieu a sorti d'Égypte. Eh bien, d'une façon littérale, Jésus lui aussi est allé habiter en Égypte et Jésus est sorti d'Égypte et l'a revécu dans un certain sens la vie d'Israël, mais d'une façon parfaite, d'une façon fidèle. On voit dans les évangiles, dans les premiers chapitres de Matthieu, comment c'est pas le seul lien, mais il y a d'autres façons que Jésus a aussi été un nouvel Israël et un meilleur Israël. Lorsque Jésus a été baptisé, dans le chapitre 3, le prochain chapitre dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus a été baptisé, c'est-à-dire que les gens venaient se faire baptiser auprès de Jean-Baptiste pour la repentance de leurs péchés. Mais Jésus était sans péché. Tout le Nouveau Testament nous le dit. Pourquoi est-ce que Jésus est venu se faire baptiser? Jésus n'avait pas besoin de se faire baptiser, il n'y avait pas de péché dont il devait se repentir. Mais Jésus est venu comme représentant du peuple de Dieu, venant comme portant les péchés d'Israël, comme une façon de lui se faire baptiser comme représentant d'Israël. Et c'est quoi qui s'est passé juste après son baptême? Il a été amené dans le désert pour être tenté. Combien de jours? 40. Combien d'années Israël avait été dans le désert? 40. Il y a un parallèle là. De la même façon qu'Israël avait été dans le désert pendant 40 ans, est-ce qu'eux ont été fidèles à Dieu pendant leurs 40 ans? Ah, ils se sont plaints encore et encore. De la manne, pas assez de viande, pas assez d'eau, on n'aime pas Moïse comme chef. En Égypte, on avait des melons d'eau. Tandis qu'ici, on a juste de la manne. Et Dieu les a punis à différentes occasions, parce qu'ils étaient complètement pas reconnaissants, ils n'avaient pas des cœurs tournés vers Dieu. Mais Jésus, dans le désert, lui, il a pas eu de manne, il a rien eu pendant 40 jours. Et le diable est venu le tenter, et en le tentant, il lui disait, « Si tu es le Fils de Dieu... » Wow, le même terme Dieu, que Jésus est... En tout cas, accomplissait ce que Osée avait dit, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Eh bien, Satan vient tenter Jésus en disant, « Si tu es le fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se transformer en pain, que tu les manges. » Et Jésus s'appuie sur la parole de Dieu. Possiblement qu'il méditait Deutéronome pendant qu'il avait faim, pendant ces jours-là, alors qu'il était tenté, qu'il répond, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Une autre façon que Jésus a été le nouvel Israël, c'est qu'il a été le serviteur parfait de Dieu. Dans Ésaïe, Tout particulièrement, on voit comment le peuple d'Israël est appelé le serviteur de Dieu. Ésaïe 41, versets 8 et 9 dit ceci, Dieu parle au peuple et dit, « Mais toi, Israël, tu es mon serviteur. Jacob, tu es celui que j'ai choisi, le descendant de mon ami Abraham. Je t'ai pris aux extrémités de la terre, je t'ai appelé d'une région lointaine et je t'ai dit, « Tu es mon serviteur. Je t'ai choisi et ne te rejette pas. » Et dans les chapitres qui suivent, Ésaïe parle d'un serviteur qui va souffrir, d'un serviteur qui va être rempli de l'Esprit de Dieu, d'un serviteur qui va souffrir pour les péchés de son peuple. Et qui était ce serviteur-là? Eh bien, ça allait être Jésus. Peut-être un des chapitres les plus connus, ou le chapitre le plus connu du livre d'Ésaïe, le chapitre 53, où ça dit c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, c'est nos fardeaux qu'il a portés, qui exprime clairement qu'il y a quelqu'un qui allait être frappé, quelqu'un qui allait être maudit, quelqu'un qui allait mourir pour les péchés du peuple. Et cette personne-là, ça allait être Jésus. Alors Israël, qui était le serviteur de Dieu, mais un serviteur infidèle, a été représenté par Jésus, fils de Dieu, serviteur parfaitement fidèle de Dieu, qui vient souffrir pour son peuple. Jésus est venu être le représentant du monde, du peuple entier de Dieu. C'est donc dire que maintenant, le vrai peuple d'Israël, celui qui porte les promesses d'Abraham, c'est ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est ceux qui sont Israël en Jésus. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 9, les versets 6 à 8, il dit « Car ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas tous Israël. Et bien qu'étant de la descendance d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. » Paul est en train d'expliquer que les promesses que Dieu avait faites au peuple d'Israël, maintenant, il compare ça à un arbre qui avait poussé. Puis il y a une partie de l'arbre qui a été coupée. Puis il y a d'autres parties qui ont été greffées à cet arbre-là. Et la partie qui reste, ça, c'est les Juifs, les Israélites de descendance biologique. De descendance biologique d'Abraham, mais qui sont en Jésus, qui se sont placés sous la tutelle du Messie, celui qui était promis. Alors, parmi les Juifs, aujourd'hui, ceux qui sont vraiment Israël, porteurs des promesses d'Abraham, c'est ceux qui se sont confiés en Jésus. Des fois, ils disent qu'ils sont des Juifs messianiques qui croient que Dieu a envoyé le Messie et que c'est Jésus. Jésus de Nazareth qui est le Messie, qui est leur roi, leur sauveur, leur Dieu. Mais qu'il y a des gens de d'autres nations qui ont été greffés à cet arbre-là. Et ça, cet arbre-là, c'est le nouvel Israël. C'est l'Israël qui est porteur des promesses de Dieu. Dans Galates 3, verset 29, ça dit « Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham. » Vous qui appartenez à Christ, c'est vous qui êtes la descendance d'Abraham. Dans Romains 11, versets 1 à 5, Paul est dit « Je me demande donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple? Est-ce que Dieu a rejeté Israël? » Il dit « Certainement pas. En effet, je suis moi-même Israélite de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. » Il dit « Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. » Puis il parle d'un reste. Alors c'est le reste d'Israël qui est le vrai Israël. Il dit « Dans le temps présent aussi, au verset 5, il y a un reste conformément à l'élection de la grâce. » Alors, c'est ma conviction qu'on n'a pas besoin de soutenir le peuple juif, la nation d'Israël aujourd'hui comme nation politique. Le nouvel Israël, le vrai Israël de Dieu, c'est le nouveau peuple de Dieu. C'est l'Église, le corps de Christ, constitué de juifs et de non-juifs. Et Jésus nous a promis que même les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre son Église. Alors, cette idée-là de voir Jésus comme le nouvel Israël, c'est ce que les théologiens appellent de la typologie. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui aide à faire le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Jésus mentionnait qu'il n'était pas venu pour abolir la loi ou les prophètes. Il a dit, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Il disait que tout l'Ancien Testament rendait témoignage de lui et qu'il n'allait rien abolir. Alors, de quelle façon est-ce que Jésus allait venir pour rien abolir, mais accomplir? Alors, il y a toutes sortes de personnages de l'Ancien Testament, des événements de l'Ancien Testament et des institutions de l'Ancien Testament qui étaient des précurseurs de Jésus, ce qu'on appelle des types, qui étaient des modèles de Jésus qui allait venir. Par exemple, le tabernacle et le temple étaient précurseurs de Jésus en ce que Jésus serait le nouveau temple de Dieu, le temple parfait, et que nous tous qui avons son esprit, nous sommes le temple de Dieu. Puis, d'autres exemples, le système sacrificatoire, la prêtrise, la royauté, le sabbat, toutes ces choses-là ont été accomplies en Jésus. Et ça, c'est le lien qu'on peut faire entre eux, c'est ce qu'on appelle en théologie un lien typologique, où Jésus est l'accomplissement typologique. Donc, ces choses-là ont été un exemple, un précurseur de ce que Jésus venait à être. Une autre chose qu'on voit dans Matthieu 2, 15, dans cette citation-là de Matthieu, qui dit que Dieu disait à propos de Jésus, « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte », c'est que Jésus est le fils de Dieu. Mais le fils de Dieu a un niveau plus puissant, à un niveau plus profond que Israël l'avait été. Le verset probablement le plus clair du Nouveau Testament qui nous parle de la divinité de Jésus est dans Jean 1, verset 1, qui dit « Au commencement, la parole » Si on voit un peu plus tard, il est question de Jésus. Ou la parole éternelle de Dieu. La parole, au commencement, était la parole. Je vais vous lire selon ma version, second 21. Au commencement, la parole existait. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors, au sein même de l'unité de Dieu, c'est clair partout dans la Bible, il y a un seul Dieu. Mais la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et si on met toutes les données du Nouveau Testament ensemble, c'est ça qui nous amène à affirmer ce qu'on a la doctrine de la Trinité, malgré que le mot ne se trouve pas dans le Nouveau Testament, dans la Bible. Si on met tout ensemble, c'est la meilleure façon d'expliquer ce qu'on voit. Que Jésus n'était pas juste un être humain, qu'il n'était pas quelqu'un de créé. Jésus affirmait l'unité avec son Père. Il disait, « Avant qu'Abraham fût, moi, je suis. » Wow, tu te fais Dieu! Tu te fais Dieu, Jésus! Pas pour rien que les gens ont voulu le blasphémer, mais c'est ça qu'il disait, « Je suis Dieu. » Dieu est venu marcher parmi nous. Alors, cette doctrine complexe de la Trinité, qu'il y a un seul Dieu, mais qu'il y a trois personnes distinctes qui partagent toutes les trois l'essence, la plénitude et toutes les caractéristiques, tous les attributs du Dieu éternel. Mais Jésus, dans sa relation, Jésus le Fils, dans sa relation avec le Père, il parlait d'une relation extrêmement intime. Dans Matthieu 11, 27, et là on voit que Jésus, s'il a vraiment dit ça, il n'était pas juste un grand enseignant, il était un fou, ou il était un trompeur, ou bien il était Dieu. Il a dit, « Mon Père m'a tout donné, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. » On pourrait dire, « OK, ben moi aussi je pourrais dire la même chose. Personne ne me connaît sauf le Père, sauf Dieu. » C'est vrai, personne, même moi je ne me connais pas comme Dieu me connaît. Puis ensuite il dit, « Et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. » Et celui à qui le Fils veut le révéler. Wow! Jésus affirme une exclusivité au niveau de la connaissance de Dieu, le Père. Il dit, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Et on voit dans l'Évangile de Jean, deux reprises, Dieu qui parle de Jésus et qui lui dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Est-ce que vous vous souvenez dans quel... C'est quoi les deux contextes où Dieu il dit ça? Son baptême. Très bien, on se souvient souvent plus de celui-là. Quel est le deuxième contexte? Sur la montagne. Ouais. Ce qu'on appelle la transfiguration, où Jésus était, il est devenu tout blanc. Où Moïse et Élie sont apparus à ses côtés et que Dieu a parlé de la nuée et a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Qui a toute mon approbation. » Et ensuite, il rajoute quelque chose qu'il n'avait pas dit la première fois. « Écoutez-le. Celui-ci est mon fils. Écoutez-le. » Ce titre de fils de Dieu est un titre que Jésus a porté sur la croix comme un titre de moquerie aussi. Les gens qui se moquaient de lui disent, si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Il dit, si Dieu l'aime, pourquoi est-ce qu'il reste là? Il se dit fils de Dieu. Alors, les gens, malgré qu'ils se moquaient de lui, parlaient un peu à travers leur chapeau, mais ils affirmaient la vérité. Mais la raison pour laquelle Dieu le laissait là, c'était par amour pour nous. C'était Jésus a porté nos péchés, a porté la colère que Israël méritait, la colère que nous méritons à cause de nos péchés, à cause de notre rébellion contre Dieu, parce qu'on se tourne vers toutes sortes d'autres choses, toutes sortes d'autres faux sauveurs, faux dieux, toutes sortes d'idoles, toutes sortes d'autres choses que Dieu qu'on va adorer. On va adorer l'approbation des autres. On va rechercher le confort matériel. On va rechercher l'absence de souffrance. Et ces choses-là vont nous devenir plus précieuses que Dieu. Ça, c'est comme aller vers de faux dieux. Et Jésus est mort pour ça, à cause de ce que ça représentait. Un peu plus loin dans le Nouveau Testament, dans le premier épître de Jean, 1 Jean 5, Jean dit ceci à propos de Jésus, fils de Dieu. 1 Jean 5, verset 9 à 13. « Si nous recevons le témoignage des hommes, reconnaissons que le témoignage de Dieu est plus grand, car c'est le témoignage de Dieu, celui qui l'a rendu à propos de son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils. Or, voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris cela à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Est-ce que tu as le Fils? Est-ce que tu as placé ta confiance hors de toi-même et seulement dans le Fils, seulement en Jésus? Est-ce que tu t'appuies encore sur tes efforts, sur ta religiosité? Ou est-ce que tu désespères à juste titre de tes efforts pour arriver? Réfugie-toi dans le Fils, en Jésus. Il nous appelle, il vous appelle. Il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et ce titre de fils de Dieu, Jésus l'accorde à ceux qui, par la foi en lui, ont reçu la vie éternelle. Galates 3 encore, verset 26, « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » On pourrait dire fils et fille, mais fils, c'est l'idée que les fils, c'était les héritiers. Donc, vous êtes tous fils, vous êtes tous héritiers. Autant les gars que les filles, vous êtes tous héritiers, co-héritiers en Jésus. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni un, ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et par Jésus-Christ, cette même parole que Dieu a prononcée à l'égard de Jésus, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé », qui a toute mon approbation, en qui j'ai mis toute mon affection. Cette parole-là, il la prononce sur ses enfants. Il la prononce sur toi, si tu es en Jésus. Il dit, celui-ci, celle-ci est ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon approbation. Quel privilège de pouvoir suivre un tel Père. Un Père qui nous aime. Un Père qui nous aime trop pour nous laisser dans nos péchés. Il va nous changer. Il est en train de nous transformer. Il est en train d'accomplir son œuvre en nous, puis il va l'accomplir. Et si on retourne, on repense à Marie et Joseph qui ont quitté Bethléem vers l'inconnu, vers l'Égypte, bien, c'était avec l'assurance de la protection de Dieu, de la providence de Dieu, qu'il allait prendre soin d'eux. J'aimerais juste vous laisser quelques versets comme conclusion, l'assurance des soins de Dieu. « Ah, le Seigneur, il ne va pas toujours protéger notre corps, notre santé ou notre sécurité. On peut être persécuté pour notre foi. On va tous souffrir et mourir. Mais notre âme est en sécurité auprès de lui. » Psaume 23 nous dit « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. » Hébreux 13, versets 5 et 6 dit « Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon secours. Je n'aurai peur de rien. Que peut me faire un homme? » Dernier passage, Romains 8, versets 35 à 39. Glorieux passage. Ce chapitre-là, Romains 8, j'avais lu l'année passée ou il y a 2 ans que sur l'application La Bible que plusieurs ont téléchargé sur leur téléphone, c'était le chapitre le plus lu. Des millions d'utilisateurs, ce chapitre-là, qui termine avec ces glorieux versets, qui dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. » Alors, ce texte-là ne mentionne pas le fait qu'il va avoir une absence de souffrance. Au contraire, c'est à cause de Dieu, parfois, qu'on va vivre de la souffrance. Puis, toutes ces choses-là, détresse, angoisse, persécution, faim, dénuement, danger ou épée. Mais à travers ça, ça dit qu'on ne sera pas séparé de l'amour de Christ. Rien ne nous séparerait de l'amour de Christ. Je continue au verset 37. « Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Puissions-nous l'adorer, lui Fils parfait de Dieu, celui qui est venu être le nouvel Israël, le nouveau peuple de Dieu, notre représentant saint, pur et parfait devant Dieu, pour que nous puissions avoir la vie éternelle et que nous ne soyons jamais séparés de son amour. Que le Seigneur vous accorde sa paix, peu importe ce que vous vivez en ce moment, sa paix dans le fait d'être unis à Jésus, de savoir que rien ne vous séparera de l'amour de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.